le mardi, à la fin du LEM, on vous propose le plateau des marottes, les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous, des idées de sortie dans le Finistère aussi. Aujourd'hui, au micro, comme si on n'avait pas assez mangé, il y a Christophe Cassetza qui est de retour pour la chronique Silence Satouille, cinéma et cuisine. On aura aussi Marine Chanourdi qui, elle, aura du ressort pour la nouvelle année. Bonjour et bonne année à tous les deux.
Bonjour.
Moi, ce que je vous propose, c'est pas trop gras.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas trop gras. Enfin, plutôt... bon, oui, bah, bof, on va voir ça. Et mon grain de sel nous fera prendre le train si on a le temps, Ouigo, mais pas trop. Christophe, on va commencer avec toi. Donc, et les trois films déjà nouveaux que tu nous préconises.
Trois films qui vont sortir mercredi. Alors, en entrée, je vous propose La Chambre d'à côté, le nouveau Pedro Almodovar. Alors, autant vous dire tout de suite, si vous cherchez un film pour une soirée pyjama avec popcorn et licorne, oubliez. Non, là, c'est du Almodovar, du vrai. Ce n'est pas vraiment le genre à mettre des paillettes sur de la mélancolie. Le titre, La chambre d'à côté, est déjà une promesse de mystère et de secrets inavouables. En gros, c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui se font la guerre par procuration, avec une amie commune qui sert de tampon, ou plutôt de punching ball, en fait. C'est un peu comme si Freud avait écrit un épisode de Desperate Housewives, mais avec des dialogues plus pointus et des robes extravagantes. C'est Almodovar. Hein. On est dans le drame existentiel, à haute tension, avec un casting qui envoie du lourd. Tilda Swinton et Julianne Moore, excusez du peu. Imaginez deux divas, une blonde incandescente et une rousse éthérée, enfermées dans un huis clos émotionnel. C'est du Bergman accompagné à la sauce comédie musicale de Bollywood, mais sans la chorégraphie entraînante. Quoique, avec Almodovar, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On retrouve sur ces thèmes de prédilection, la famille, les femmes, le désir, la mort, le tout saupoudré d'une bonne dose d'ironie et de mélodrame. Voilà, c'est un peu comme une paella, il y a plein d'ingrédients différents, mais le résultat est savoureux.
On s'y retrouve en effet.
Voilà, alors en plein de résistance, on passe à du cinéma coréen. C'est rafraîchissant, avec Hiver à Sokcho, le film de Koya Kamura. Accrochez-vous car on part pour une balade dans une Corée du Sud frigorifiante. Le pitch, une jeune femme franco-coréenne, interprétée par Belle Kim, travaille dans une pension miteuse de Sokcho, une ville balnéaire sur la côte de la Corée du Sud. Et c'est en plein hiver. Mais c'est vraiment l'hiver rigoureux. Un auteur de BD français, Roche Dizen, débarque. Et entre eux, c'est un peu glacial. Mais pas que dans le thermomètre. Leur relation est plus faite de silence que de grandes déclarations. Kamura capture l'atmosphère carte postale mélancolique de Sokcho en hiver, avec une esthétique léchée, des plans souvent contemplatifs. C'est très beau. On a envie d'enfiler un gros pull et de boire du thé brûlant devant ce film qui prend son temps. Un peu comme un bon thé qui infuse tranquillement. En résumé, Hiver à Sokcho, c'est un film atmosphérique, avec une belle esthétique et des acteurs très convaincants.
Donc on amène cette thermos au ciné.
On y va au ciné en thermos, on prend une petite couverture. C'est vrai que par moment, on a un peu froid. Pour le dessert, plongeons-nous dans un mélodrame, celui d'Agnès de Sacy, la fille d'un grand amour. Le pitch, un amour passionné, des souvenirs éparpillés façon puzzle, et une fille, Anna, qui se lance dans une archéologie familiale pour déterrer les secrets de ses parents séparés. Le tout est arrosé de non-dits et de regrets aussi gros qu'une baleine échouée sur une plage de Bretagne. Vous n'avez qu'à voir les regrets. Pour le casting idéal, Isabelle Carré et François Damien sont délicieux, comme un bon vin et un fromage affiné qui se marient à merveille. Leurs dialogues sont ciselés, les mots sont justes. C'est pas du Shakespeare, mais c'est pas non plus une conversation de comptoir après trois pintes. Ça sonne vrai. La mélancolie ambiante est d'une jolie teinte, le film baigne dans une atmosphère qui se laisse porter par une douce tristesse, comme un petit crachin d'automne qui vient rafraîchir l'atmosphère. Et ça, on sent que c'est un peu breton, même si ça se passe dans le sud. C'est un film qui ne cherche pas à impressionner, alors n'attendez pas un grand amour. Le grand amour du siècle, on est plutôt dans un joli petit amour qui fait son chemin. Une promenade digestive, un peu comme un escargot philosophe sur une feuille de Littubio. Voilà, c'est ça, c'est une petite friandise cinématographique qui se laisse regarder sans avoir besoin d'un extincteur émotionnel.
C'est entendu. On a eu la carte, alors maintenant il nous faut le ciné-bouffe.
Ah, le ciné-bouffe, ça c'est une séquence, moi je l'adore, c'est un film anglais. Pour la séquence ciné-bouffe, je vous propose un morceau de choix. Port Royal. Alors, c'est pas le port avec un T, mais c'est un port avec un C, le groin-groin. C'est un film réalisé par Malcolm Mombré en 1984, qui, à défaut de révolutionner la charcuterie, offre une tranche de comédie britannique savoureuse à souhait. Nous sommes en 1947 en Angleterre. Les rationnements bas sont pleins. Les temps ont la dent dure et même le bacon se fait rare. Imaginez le drame national. C'est dans ce contexte de disette baconienne qu'un couple, les Chilvers, Michael Palin et Maggie Smith, impériaux, décident de voler un porc élevé en secret par des notables du village, le casting de la charcuterie fine. Michael Palin étant mari timide et dépassé, c'est un délice. Maggie Smith, son épouse ambitieuse et manipulatrice, est tout simplement royale. sans mauvais jeu de mots. Leurs échanges sont croustillants comme de la couenne savoureusement grillée. Et Port-Royal, c'est surtout une satire mordante de la société britannique d'après-guerre, marquée par les inégalités sociales, les privilèges de classe et l'hypocrisie. C'est une œuvre porcine à voir et à revoir sur Arte en replay et à consommer sans modération. Et la scène qui nous intéresse, c'est Joyce et Gilbert Chilvers sont à table en compagnie de la mère de Joyce devant un repas frugal, une petite fine tranche de jambon accompagnée de deux feuilles de salade et d'une tranche de tomate. Ça sent la restriction. Gilbert, pédicure de son état, raconte sa journée peu ragoûtante, ce qui n'est pas du goût des deux dames. La conversation s'achève par un gros plan, et ça c'est très astucieux, qui passe d'une grande de leur assiette un peu frugale à un gros plat avec un beau steak et des choux de Bruxelles. Et là on se retrouve à table avec une partie des notables du film.
Je suis tombé sur une verrue aujourd'hui. Ah, sacré morceau. Va falloir l'attaquer à la lame de rasoir.
Ne parle pas de pied à table, Gilbert, je t'en prie.
Faut attendre qu'elle soit à point. Et alors là, c'est du gâteau. Le panari de Madame Roque semble être en bonne voie de guérison. Tu sais comment elle m'a remercié ? Avec un macaron.
Un macaron ?
Mmh.
Un macaron, c'est tout ? Nous allons bien mieux que ça, Gilbert.
Mieux que quoi ? Tu finis pas ton jambon ? Écoute, Joyce, une fois que j'aurai mon cabinet dans la grande rue, tout sera différent. Ils s'amèneront dans leur voiture, ils nous inviteront, nous filerons des steaks.
C'est pas une question de steak, Gilbert, mais de standing. Alors, ce steak ?
Parfait.
Reprendrez-vous des choux de Bruxelles, docteur Swaby ? Pauvre monsieur Metcalf.
Et bon, évidemment, c'est la version française.
C'est la version française, ouais. C'est pas très bien traduit par moment, mais là, mais on sent vraiment la différence. Et on sent cette petite transition entre les deux styles de repas de l'époque, quoi.
En
voilà. Et alors, donc, moi, je vous propose comme recette, surtout, le filet de porc poché à l'anglaise.
Mais porc... Christophe n'a pas froid aux yeux. À l'anglaise.
À l'anglaise. La cuisine, non, mais c'est très bon. J'ai essayé, c'est très, très bon. Mais vous choisirez le porc royal, bien sûr. Hein.
Ouais.
Pour 4 personnes, vous plongez un filet de porc de 1 kg dans 1 litre de courbouillon bouillant, composé de une carotte, un oignon, un clou de girofle, une feuille de sauge, du thym, du laurier, du sel, du poivre. Je vais pas trop vite, c'est bon. Et vous laissez cuire le tout 1h30 après la reprise de l'ébullition, bien sûr. Vous sortez la viande, vous l'égouttez, vous l'enduisez de moutarde et de chapelure, vous passez le tout au four, très chaud, juste le temps de le faire joliment doré. Servez avec des choux de Bruxelles, comme dans le film. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres, et servez avec des légumes cuits à la vapeur et un petit peu de beurre frais. Good appétit, my dear.
Merci Christophe. Bon alors là, ça va être dur de rebondir après ça, mais elle a du ressort. Marine Chanourdi,
ah oui.
Vas-y, tu as du ressort. Comment fais-tu ?
Bonjour et bonne année à tous. Je vais vous parler d'un projet qui donne de l'élan. Le 14 janvier prochain se déroulera le premier atelier de la 7e édition de Ressort. Ressort, c'est un projet de création artistique partagée, porté et animé par la compagnie de théâtre brestoise du Grain. Pendant près d'une année, une quinzaine de Brestois et Brestoises en situation d'isolement ou de fragilité et des professionnels du spectacle se rencontrent et écrivent ensemble une œuvre de fiction théâtrale qu'ils interpréteront sur 3 scènes brestoises à la fin de l'aventure. Les scènes en question, c'est notamment la Maison du Théâtre et le Macorlan. Les participantes sont des femmes, des hommes, jeunes ou plus âgés, habitantes des quartiers concernés par la politique de la ville de Brest et en situation de précarité. Donc ça peut être des personnes exilées, des bénéficiaires de minima sociaux ou encore des personnes en situation d'hébergement d'urgence. Le projet Ressort est conçu comme un programme de remobilisation sociale par l'intermédiaire d'un engagement au sein d'un travail de création collectif et exigeant. À travers aussi l'écriture et la pratique du théâtre, et aussi grâce à un suivi personnalisé assuré par les partenaires sociaux et médicaux du projet qui constitue le comité technique de l'aventure. Parmi ces partenaires, on peut compter le Centre communal d'action sociale, le Point H, Défi emploi, etc. Le travail de création se construit pas à pas. Très concrètement, le projet ressort prend la forme d'ateliers hebdomadaires de 3 heures, les mardis de 14h à 17h hors vacances scolaires.
Donc ça, le prochain, mardi prochain.
Voilà. Le premier, donc mardi prochain, ça se passe dans les locaux du Maquis.
Le Maquis, enfin, un petit mot juste.
Un petit mot du Maquis, un lieu d'accueil, d'éducation populaire et de création artistique, un collectif composé de maquisards. On y est le bienvenu pour boire un café, manger un bout, participer à des activités en tout genre. C'est un lieu formidable.
Il y a notamment le Théâtre du Grain.
Et il y a notamment le Théâtre du Grain qui est une compagnie habitante, parce que le Maquis est aussi un lieu qui accueille des compagnies de théâtre, de danse, de spectacle en général. Et puis. Qui accueille des compagnies aussi en résidence. Donc tout cela se passe à Brest, dans le quartier Saint-Pierre. Les ateliers en question sont encadrés par des professionnels, metteurs en scène et comédiens de la Compagnie du Grain. Il faut savoir et noter que ces ateliers sont entièrement gratuits pour les participants et les participantes. On y aborde les éléments clés de la formation de l'acteur, travail de la voix, du corps, la respiration, la présence, les états émotionnels, l'interprétation, etc., etc. Autant d'outils propices au développement de l'estime et de la confiance en soi et de la confiance mutuelle. L'écriture théâtrale créée tout au long du projet Ressort est une écriture partagée, composée par une autrice du Grain, Maïna Madec, qui va imaginer une fiction inspirée des rencontres avec les participants-participantes et nourrie de leurs paroles. Les thèmes abordés sont souvent difficiles, violence, addiction, migration, perte d'emploi. Il s'agit là de développer cette matière et d'en faire une proposition adaptée à un travail de création scénique qui va valoriser la parole de personnes qui sont bien souvent invisibilisées. Le passage à la fiction permet notamment de prendre du recul par rapport au vécu intime et parfois douloureux et d'en mettre en lumière la dimension universelle susceptible d'être partagée avec le public.
Et on peut avoir un exemple, c'est ça? Avec celui de l'année dernière.
Je ne résiste pas à la tentation de vous lire un petit extrait d'un des textes qui avait été écrit dans le cadre de la précédente édition de Ressort. Le projet en question s'appelait « J'ai touché l'extra ball juste avant de faire tilt ».
Allusion à le flipper.
J'ai touché l'extra ball juste avant de faire tilt. On se réfugiera dans la caverne en attendant que passent les ptérodactyles. J'ai liquidé mon stock d'endorphines, mes périodes gris-noires. Je suis une Amazone. La bouffe anesthésie le cerveau. Je suis très amoureuse de Keanu Reeves. Ma vie est en suspens. La solitude, ça rend fou. Dans mon cœur, c'est Damas. Je serai le médecin du temps. Faire corps ensemble. Avancer ensemble. Dans le bus de nuit, il y a des personnes que l'on ne voit jamais pour que nous, on vive dans la lumière. C'est dans les entre-deux que se créent les avancées. Le monstre, c'est pas les gens, c'est les constructions sociétales. Je suis proche des autres par l'émotion. J'en fais quoi, moi, de ma grosse joie? Je suis le lapin devant les feux. L'intensité me permet d'avoir accès à moi. J'étais catholique, puis communiste, j'ai viré socialiste, et maintenant j'ai viré au Maquis. Un peu étonnant?
D'accord, on voit, on voit. Donc ça, c'est coécrit avec les gens, quoi.
Exactement. Ça, et donc l'autrice part des témoignages et puis voilà de ce qui se passe durant les ateliers et puis tisse une fiction. Donc ça devient au final une écriture collective qui va être interprétée par les participants participantes qui pour la plupart n'ont jamais fait de théâtre.
Et donc les ateliers de 3 heures, il y en a pendant combien de temps? Enfin toutes les semaines
En fait c'est tout au long de l'année, donc là de janvier à novembre.
Et les représentations donc, seront pour quand?
Elles sont prévues dans le courant du mois de novembre. Bon. Voilà, donc c'est un travail très inspirant, très engageant, et qui permet beaucoup. Ça s'appelle Ressort, c'est pas pour rien. C'est aussi pour... c'est une manière de développer des outils pour aussi rebondir dans la vie.
C'est quand même des gens qui arrivent à parler français à peu près.
Oui, enfin, tout à fait. Ouais. Oui, complètement. En complément des ateliers hebdomadaires, le projet Ressort propose aussi à des participants un parcours culturel. Des sorties collectives dans des lieux artistiques et culturels brestois viennent ponctuer l'année et nourrir le processus créatif. C'est des sorties qui permettent à des participants de sortir de leur quartier, de leur quotidien, de pousser les portes des lieux culturels de la ville, parfois pour la première fois. La question de l'après-ressort est aussi envisagée. L'équipe du Grain, accompagnée par les membres du comité technique, tente d'intégrer cet aspect dès les débuts du dispositif afin de tout mettre en œuvre pour préparer la fin et éviter que les personnes ne retombent dans leur isolement à l'issue du projet. Donc c'est là que le maquis joue un rôle important dans, oui, sa fonction, dans sa mission d'accueil notamment. Et cela se traduit par une implication volontaire des participants et participantes au projet ressort.
Est-ce qu'on peut être bénévole au maquis, par
exactement,
exemple?
Exactement. On peut être bénévole au maquis. On peut participer aux différents temps forts qui viennent rythmer la vie du collectif. Les gueuletons, les réunions de vie, les sorties de résidence, la chorale. Et effectivement, on se rend compte que nombre de participants aux différentes éditions du projet ressort deviennent, à l'issue du projet, des bénévoles du maquis, donc des maquisards, et s'investissent dans les différentes activités du collectif.
Les piliers du maquis.
Les piliers du maquis.
Et donc toi, tu nous feras découvrir le projet ressort en longueur, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un petit peu l'idée. Je vais suivre le projet tout au long de l'année et puis je vous en parlerai. Je ne sais pas encore ce à quoi ça va donner lieu, mais en tout cas, il y aura un bébé radiophonique qui va en être.
Un long reportage ou une série radiophonique. Comment on sait faire?
Tout est possible cette année.
Et on aura toutes les infos pratiques sur le projet ressort sur le site internet de la radio.
Exact, et une réunion d'information est prévue vendredi 10 janvier à 14h au maquis.
Merci beaucoup Marine. Alors
merci.
J'ai encore un peu de temps avec mon grain de sel qui sort du domaine artistique, qui est ferroviaire, parce qu'une de mes marottes qui a marqué ma vie, c'est le train. Et c'est aussi le sujet de la Confédération des associations ferroviaires bretonnes. C'est la COFER BZH qui rassemble en fait des associations liées au train et au transport. Et elle est présidée par Stéphanie Grevet. Et aujourd'hui, Stéphanie réagit à une actualité liée au Ouigo en Bretagne.
Alors le Ouigo, c'est un train SNCF low cost, c'est-à-dire un peu dans le même principe que les avions. C'est des trains, si on s'y prend tôt, on a des billets pas chers et avec très peu d'arrêts et les bagages limités comme pour un avion low cost.
C'est quand même un TGV.
Les trois quarts du temps, oui, c'est un TGV, oui. Parce qu'après, quelquefois, il y a un Paris-Nantes en Ouigo, mais il passe par tour, en fait, il fait le grand tour.
Alors depuis le 15 décembre, il y en a un supplémentaire, en fait, c'est ça, pour la Bretagne?
Oui, c'est ça, pour Paris-Rennes, oui.
Au total, ça fait un deuxième?
Oui, il y en a deux. Donc c'est très bien, du moins nous, on est contents qu'il y ait un Ouigo et tout. En fait, ce qu'on reproche, c'est qu'on fait toujours dans le sens Bretagne-Paris et qu'on ne pense pas aux relations vers les autres régions, par exemple, donc vers Nantes ou vers la Normandie. Parce que donc autant aller sur Paris, c'est facile, mais autant aller à Nantes en partant de Brest ou en partant de Quimper, c'est très compliqué.
Ah oui, il pourrait y avoir des Ouigo, par exemple, entre Nantes et Quimper?
Oui, voilà, ou même pas, on réclame même pas Ouigo. Nous, déjà, s'il y a un train normal, on serait, du moins, plus de trains normaux, on serait contents. Et pareil, ce qu'on reproche aussi, c'est qu'il n'y a plus de correspondance. Donc, pareil, qu'on vient de Quimper ou de Brest. Avant, on avait des correspondances à Rennes pour aller vers Lyon, Marseille ou Bordeaux. Et là, pareil, ces correspondances-là ont sauté. Donc, du coup, en fait, on est toujours obligé de passer par Paris pour aller dans les autres métropoles françaises.
Et il y a un problème aussi avec l'application SNCF Connect?
Oui, alors, ceux qui prennent souvent le train connaissent l'astuce, mais en fait, par exemple, de Quimper, si je vais aller à Bordeaux, en fait, le site me propose directement de passer par Paris. Et en fait, donc, les gens qui connaissent le site savent qu'il faut cocher la petite case de via Nantes pour faire le trajet via Nantes, parce que, un, ce trajet-là coûte moins cher, et du moins, on prend à peu près le même temps, puisque la correspondance est plus courte à Nantes qu'à Paris.
Donc la COFER BZH demande toujours une amélioration des lignes interrégionales. Enfin, on en est où sur ce chapitre?
Alors là, nous, du moins pour la ligne Bretagne-Sud, apparemment en septembre 2025, on aura des trains pour Nantes en plus. Donc on attend de voir, mais normalement c'est en bonne voie. Et par contre, là, on réclame de Brest pour aller à Nantes. Le site et la SNCF font passer par Rennes, ce qui rajoute 100 km en plus, alors que la ligne naturelle, c'est Brest-Quimper-Nantes. Et du coup, en fait, il faudrait rajouter des trains entre Brest et Quimper pour justement refaire la ligne naturelle Brest-Nantes qui a toujours existé pendant des années et que la SNCF, on ne comprend pas pourquoi, force les Brestois à passer par Rennes. C'est pour rentabiliser le TGV Brest-Rennes, en fait.
Stéphanie Grevet de la COFER BZH, qui sera notre invitée en longueur cette fois, ce sera le 16 janvier dans l'Aisne, et on parlera des différentes actualités du train breton. Merci les amis. Et les marottes du mardi, c'est terminé en deuxième partie de l'Aisne. Dans l'Aisne de mercredi, ce sera Pierre-Yves Boussard qui commandera, et il sera avec le service jeunesse de Plougastel. À bientôt.